Maintenant, nous allons écouter la prédication de Max Fiol, qui est un prédicant de longue date, qui vient de Barjac et qui va nous faire le plaisir de lire et donner ses commentaires sur la parole.
Je suis Max Fiol, un ancien kiné retraité, prédicateur depuis quelques années. J'ai commencé mon ministère de prédication pratiquement à l'Est il y a 45 ans, dans le Grand Temple. Et maintenant, j'arrive plutôt à la fin de cette période. Voilà. Je suis très heureux d'être parmi vous, mais j'ai toujours peur. Je ne veux pas parler moi-même. Ce n'est pas moi qui suis le plus important. C'est le Seigneur Dieu qui, au travers de sa parole, veut nous parler. Alors pardonnez-moi mes imperfections, mais comprenez qu'en fin de compte, je ne suis pas grand-chose, mais lui veut nous parler véritablement à chacune et à chacun de nous maintenant. J'ai beaucoup apprécié la prière d'un frère que je ne connais pas, mais dans sa prière, involontairement, il sait ce que je vais dire maintenant. Alors, avec un petit peu d'humour, est-ce que quelqu'un connaît le prophète Habacuc ? Levez le doigt, voilà. Alors, ce n'est pas une interrogation, parce que avant cette étude, je savais de lui que c'était un guerrier, mais voilà. Alors, je vais lire quelques versets dans ce livre du prophète Habacuc. C'est un dialogue du prophète avec l'Éternel. Chapitre 1, verset 1 et les suivants. Oracle révélé à Habacuc le prophète. « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas ? J'ai crié à toi à la violence et tu ne me secours pas ? Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des querelles et la discorde s'élève partout. Ainsi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. » Et là maintenant, au verset 5, c'est la réponse de Dieu. « Jetez les yeux parmi les nations, regardez. » Et soyez saisis d'épouvante, d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traversent de vastes étendues du pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et redoutable. De lui vient son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors, son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. On ne prévoit pas de chant, je peux prier et voilà, d'accord. Pour bien comprendre ce texte, cette prédication ce matin, nous sommes les plus malheureux de la terre si nous croyons qu'avec notre intelligence, nous allons comprendre quelque chose au message de notre Seigneur. Tout à l'heure, nous avons demandé pardon à Dieu. Et en même temps, si nous reconnaissons que nous sommes vraiment pas grand-chose pour comprendre ce grand Dieu et tous les événements qui se passent aujourd'hui dans notre monde, eh bien, nous ne pourrons pas comprendre si nous ne demandons pas à l'Esprit Saint de nous donner le discernement de la compréhension. Voilà, prions. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons encore te rendre grâce, te glorifier, te remercier, parce que c'est toi qui nous appelles avec un amour infini à te comprendre. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te remettre tous les événements de ce monde fou. Permets-nous de comprendre le livre et le prophète Habacuc, qui doit être d'un grand intérêt pour nous-mêmes. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Imaginez devant vous une grande bibliothèque de 66 livres. Qui irait chercher un des livres le plus petit qui est classé parmi les livres des petits prophètes? Petit quant au nombre de pages, mais pas quant au message. Habacuc fait partie des petits prophètes, son nom déjà. Le nom d'Habacuc provient d'une racine hébraïque qui signifie embrasser, lutter, contester. Mais aussi, c'est une plante qui vient de l'Assyrie, que vous connaissez bien, qui s'appelle Amba Cucu, Bacucu. C'est le basilic, cette plante qui apporte beaucoup du goût à la soupe du pistou. Et j'espère que ce matin, ce grand prophète, en fin de compte, Habacuc, va apporter quelque chose dans notre soupe théologique, c'est-à-dire dans notre compréhension de la parole de Dieu. Et ce n'est pas toujours facile de comprendre tous les événements qui se passent sur la terre. Je vais un peu plus loin. C'est dommage de laisser ce livre de côté, car il va répondre à une question extrêmement, à mon avis, importante. Comment vivre notre foi dans les temps du malheur? Le mot « malheur » est employé deux fois dans le chapitre 1 et aujourd'hui je vais me résumer, parler uniquement du chapitre 1, non pas du chapitre 2 et du chapitre 3. Voilà, uniquement le chapitre 1. Le mot « malheur » est employé deux fois dans le premier chapitre. Et savez-vous que en hébreu, le mot « malheur » se dit « ramasse ». il y a encore dans l'entourage du peuple d'Israël des partis politiques et un parti politique qui s'appelle le Hamas. Hamas, la violence. Alors, le prophète Habacuc est un homme au parler franc. Il ose dire ce qu'il pense sans retenue, ce que nous ne sommes pas toujours capables dans l'Église bien pensante. Combien de fois j'ai été repris par des responsables de mon Église, tout jeune, parce que ma prière n'était pas bien conforme à ce qu'il aurait fallu dire. Habacuc est un homme qui va même s'exprimer très fortement et il nous dit au chapitre 1, au verset 2, « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas ?» Ouf ! Si j'avais dit cela, à un moment dans mon église, on m'aurait arraché les yeux. Bien non. Cet homme est capable de dire à Dieu, ô Éternel, jusqu'à quand j'ai crié et tu ne m'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence et tu ne me secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et l'injustice? Qu'est-ce qui se passe devant nous? C'est le plus fort qui gagne actuellement. Avec la force, avec des tanks, des fusées et je ne sais plus quoi. Nous avons la guerre en Ukraine, mais aussi le Niger. C'est le plus fort qui croit qu'il est vainqueur, il se permet tout. La loi des hommes, des bien-pensants, ils font ce qu'ils veulent, ils pensent qu'ils sont puissants. Et ce Habacuc, je vous ai peut-être oublié de dire, c'est le basilic, mais c'est aussi, on pourrait dire, Basile, le prénom, Habacuc, Basile. Alors, Basile ne comprend pas. Pourquoi me fais-tu voir Dieu, l'iniquité, le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi la violence est devant moi? Et c'est un homme qui va oser dire, mais tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux regarder l'iniquité. Quand les méchants dévorent celui qui est plus juste que lui, quand le violent dévore le calme. Basile vivait un temps très sombre de l'histoire biblique du peuple d'Israël. Il était très difficile de garder sa foi, un petit peu comme nous aujourd'hui. J'en parlerai tout à l'heure. À l'époque du prophète Habacuc, le peuple d'Israël avait sombré dans l'idolâtrie, la violence à tous les niveaux. La loi n'existait plus. C'était la catastrophe et la période de l'exil allait venir. Nous sortons de la crise du Covid qui a duré plus de 2 ans. Peut-on être optimiste? Cette crise est derrière nous, c'est vrai, mais de nombreux penseurs pensent qu'il s'agit que d'un répit dans ce domaine-là ou dans un autre. La guerre en Ukraine et ailleurs est arrivée. On nous parle du pouvoir d'achat, de la dette nationale, de l'urgence climatique. Par exemple, dès que la chaleur sera supérieure à 50 degrés, le système informatique ne marchera pas. Rendez-vous la catastrophe qui risque d'arriver, mais je ne suis pas pessimiste, je vais m'expliquer à la suite. Sur le plan sociétal, l'instauration de la loi sur le séparatisme religieux fait qu'on va nous surveiller de plus en plus ce que nous disons, même dans nos sermons, dans nos réunions de prière. nous allons avoir un contrôle accru de l'État laïque qui va dire à ses dirigeants de l'Église, je n'exagère pas tellement ce que nous devons dire, ce que nous devons faire, et même on va nous demander de faire allégeance à nos dirigeants. Mais c'est la bête de l'Apocalypse qui est en train de se mettre en place. Oui, une crise est derrière nous, mais les choses devant nous vont être peut-être pires. Est-ce qu'il n'y a pas des temps de malheur qui nous attendent ? Alors, un verset utile dans l'Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 12, il nous est dit que l'homme ne connaît pas son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal, aux oiseaux qui sont pris au piège. Et je pense là à toutes ces populations qui sont prises dans le filet de la guerre. On ne leur demande rien, mais seulement de partir de leur maison. Peut-être même ils vont être tués, torturés, et j'en passe. Oui, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. On ne sait pas ce qui nous attend. Sachons simplement que le temps du malheur peut s'abattre et s'abat à l'improviste. C'est un prédicateur anglais qui disait ceci après la guerre. Il prêchait sur le livre d'Habacuc, un grand prédicateur anglais. Si vous aviez compris le livre d'Habacuc, jamais vous n'auriez été surpris par ce qui est arrivé au sujet de la guerre, de l'Holocauste et de tout ça. Sommes-nous prêts à affronter le malheur? La difficulté, c'est le chemin qu'Habacuc a vécu. Il est passé du doute, de l'incompréhension à l'adoration. À aucun moment cet homme n'a douté. Mais il commence par crier au secours. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? Alors dans le texte hébreu, c'est intéressant, j'ai crié au secours. Est-ce qu'à un moment de notre vie, frères et sœurs, n'avez-vous pas crié vers Dieu? Peut-être devant la difficulté, devant la grande difficulté devant nous. Pourquoi l'oppression? Pourquoi la violence? Mais le livre se termine bien au chapitre 3, verset 19. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Vous savez, les biches sont très agiles et ne peuvent pas vraiment se défendre. Elles peuvent se défendre en courant très vite. Eh bien, Habacuc, à la fin, se rend compte que le Seigneur est sa force et c'est lui qui rend ses pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher dans des lieux élevés. Alors, je vais maintenant essayer de répondre à trois questions pour simplifier ce chapitre 1. La question d'Habacuc, il faut dire quelques mots. La réponse qu'Habacuc reçoit et la leçon que nous pouvons tirer. Voilà. Dieu, pourquoi ne fais-tu rien? Contrairement aux autres livres, on n'apprend rien sur ce vieux Basile. On a l'impression que ce qui est important n'est pas ce qu'il est, son histoire, etc., etc. Mais le plus important, c'est son message. Il l'embraye directement. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? Comment, Dieu, peux-tu voir tout ce qui se passe? Entre les lignes, nous savons que le peuple d'Israël est vraiment dans le pétrin. En un mot, deux mots résument là le mot du pétrin, c'est le ramasse, la violence. La violence qui est bien là dans le peuple d'Israël, aujourd'hui même. Comme jamais, il y a une contestation terrible. Et ce qui est intéressant, ou pas, comme ça dépend, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des gens qui contestent la démocratie et qui veulent instaurer un régime théocratique en Israël. Mais ceci peut nous faire penser que nous nous rapprochons vers la fin des temps. Et en France, croyez-vous qu'il n'y a pas de violence avec tout ce que nous avons vu? Et le plus fort, c'est que ces gens violents, eh bien, ils pensent qu'ils peuvent tout faire, tout se permettre. Et les autorités ont beaucoup du mal à les contenir. Un indice de taille nous parle des Chaldéens. Moins de 600 ans avant Jésus-Christ, Dieu a fait venir les Babyloniens. Ce peuple cruel va amener la nation d'Israël en exil, la période la plus noire de l'histoire d'Israël. Il y a eu quelques années avant, le prophète Habacuc, le bon roi Josias, qui avait installé des réformes religieuses, morales. Il avait lutté contre l'idolâtrie, mais cette réforme est restée superficielle. Son successeur, Joachim, a été élu un mauvais roi. Les choses se dégradent. La corruption devient endémique, morale, anarchique, spirituelle. Il y a des querelles partout. Mais on se croirait chez nous, sans exagérer. Il y a des querelles partout, de la discorde partout. Même dans les églises, le mal est là, il échappe à tout contrôle. Il n'y a plus de garde-fou. La loi n'est plus appliquée. Le juste n'est plus reconnu par les officiers de justice qui sont corrompus. Le méchant l'emporte sur le juste. Les choses vont mal. Et Habacuc crie, Seigneur, pourquoi? La lutte paraît simplement, paraît inégale et ne se terminera jamais, pourrait-on penser. Nous devons constater deux choses. La première, c'est le franc-parler d'Habacuc. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Il dit ce qu'il pense. La deuxième chose, c'est qu'Habacuc n'a pas la moindre idée de s'éloigner de Dieu. Que fait-il? Il prie. Et il pense très fortement dans sa tête, « Seigneur, à qui irai-je d'autre que toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Dieu est là pour prendre nos requêtes, nos prières, nos moments de désespoir terrible. Mais il est là, tout près de nous. La réponse qu'Habacuc obtient. Au verset 5, Dieu dit à Habacuc, « Jetez, Dieu Habacuc, et à tous les croyants, jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'épouvante, car je vais faire une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » C'est vrai que c'est vraiment incroyable. « Je vais susciter les Chaldéens, ce peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues du pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Je vais susciter des méchants. Il est terrible, ce peuple, et redoutable. » Alors, dans certaines versions, il y a marqué « formidable », mais j'ai regardé le texte en hébreu, mais ça ne va pas formidable. Il n'est pas formidable du tout, ce peuple. Il est terrible et redoutable. De lui seul vient son droit. Il fait ce qu'il veut. Et de sa grandeur, ses chevaux sont plus rapides. J'ai envie de dire, on pourrait dire qu'il a des tanks super costauds. Et tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Qu'est-ce que nous voyons dans beaucoup de cas ? Des gens qui se croient forts, qui se livrent au pillage. Ils se moquent de la loi, des rois, des princes. Ils se rient des forteresses. Ils amoncent de la terre, ils les prennent. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Dieu répond à Habacuc. Habacuc, je ne suis pas sourd, je vois bien l'injustice en Israël et je suis sur le point d'y mettre point. Ouf, ça arrive, voilà. Quand je prie, je ne sais pas vous. Bien souvent, je prie de telle façon que j'ordonne à Dieu qu'il me fasse, en fin de compte, la réponse que je veux. Eh oui. Je veux qu'il me réponde exactement à ce que je veux. Et il y a même des communautés qui veulent que Dieu réponde pendant une cérémonie religieuse. Mais au moment où Dieu le veut comme ils veulent, Seigneur, règle mes problèmes. Et bien souvent, même si nous ne l'exprimons pas, on connaît en fin de compte ce que Dieu devrait faire. Habacuc, lui aussi, devait avoir une idée de la façon dont Dieu devait résoudre le problème. Par exemple, faire revenir, susciter un autre roi comme le bon Josias. Mais qu'est-ce qu'il obtient ? Il n'obtient pas cela. Ce n'est même pas la réponse qu'il obtient et même les choses vont s'empirer pour devenir pire qu'avant. Alors là, on risque de rien comprendre. Fixez les yeux vers les autres peuples, dit le Seigneur. Je vais faire venir les Babyloniens. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez. C'est un peuple furibond, impétueux. Et ce qui est encore plus incompréhensible, c'est que Dieu dit, c'est moi qui les envoie. Ils vont être un outil pour rétablir mon plan. Ouf. Moi, il y a quelque temps, je vais vous faire une confidence. Au début de la guerre en Ukraine, je priais, mais Seigneur, tu es capable d'arrêter ce dirigeant violent? Mais oui, Seigneur, vas-y. C'est moi qui les envoie, dit Dieu. Ils vont être un outil pour établir mon plan. Dieu dit à Habacuc, j'ai entendu tes prières et la réponse va venir au travers des Babyloniens, au travers de des gens non recommandables. Dieu semble mystérieux quelquefois. Qui aurait imaginé qu'un grand Dieu utiliserait les Babyloniens à ses fins? Il est le maître souverain et même les nations hostiles sont dans sa main. Comment un Dieu si bon peut-il utiliser les actions mauvaises des hommes? Mystère. Mais la réalité est que ce Dieu bon utilise les mauvais, c'est important, ce que je vais dire juste après, sans être en aucune façon responsable de leur méchanceté. Le plus grand exemple que nous trouvons dans la Bible est celui de la croix de Jésus. Qui a tué Jésus? Acte 4, Pierre répond et dit ceci. Il est en train de décrire les événements qui se sont passés. Au verset 26, il nous est dit, « Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Contre ton Messie, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués. Ils ont comploté contre Jésus. Ils ont été terribles, mauvais. Ils devront rendre des comptes pour cela. » Ils se sont ligués ensemble. Mais au verset 28 qui doit nous encourager, pour faire tout ce que qui avait été prévu d'avance. Voyons que même le plus terrible complot de toute l'humanité n'a pas échappé un seul instant au plan de Dieu. Plus encore, Dieu s'est servi de ces personnes pleinement mauvaises, maléfiques, pour en faire sortir le plus grand bien, le salut du monde, au travers de cette violence. Juste un instant de réflexion. Pour moi-même, je n'ai rien noté, mais Dieu s'est servi, je vous fais une confidence, de moi qui étais mauvais, pécheur. Et il a transformé tout cela pour que j'annonce sa parole et son amour. Soyez saisis de stupéfaction de votre vivant. Des années plus tard, c'est l'apôtre Paul qui va citer Habacuc pour bien faire comprendre que Dieu utilise les mauvais babyloniens pour son dessein. Et ne pensez pas qu'au pied de la croix, les gens devaient dire « Mais quel bien peut-il sortir de tout cela ?» Soyez stupéfaits, car c'est grâce à la mort de Jésus que le salut est maintenant accessible à tous les hommes. C'est stupéfiant. Réflexion, il y a parmi les chrétiens des gens qui regardent l'avenir avec scepticisme. Que peut-il venir de ces temps de malheur, de guerre, de choses affreuses, d'injustice, de cette course aux armements ? C'est vrai qu'il y a des mystères que nous ne pouvons pas comprendre pour l'instant, mais il y a un grand réconfort. J'aimerais que tout le monde retienne bien. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Les gens ont tort d'avoir peur, car il en résultera du bien pour le peuple de Dieu, pour celui qui, comme Habacuc, croit et qui n'abandonne pas la foi. Dans l'histoire des hommes, je vais simplifier maintenant, nous avons eu le complot contre Jésus, cette violence terrible, un homme qui n'avait rien fait, s'est transformé en salut pour tous les hommes. L'exil de Babylone, selon les historiens, les synagogues n'auraient jamais vu le jour sans l'exil. Après l'Empire babylonien, les Grecs ont imposé leur langue. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Tiens. Et il a pu se répandre partout. Allez, en pratique, dans notre vie, les épreuves ne manquent pas pour les uns et les autres. Elles sont seulement différentes. Elles peuvent être terribles, insupportables. Et à un moment de notre vie, nous avons dû crier, « Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi à moi ? Seigneur Dieu, pourquoi ne fais-tu rien ?» Et si nous puissions entendre la réponse faite à Habacuc, « Je ne suis pas sourd, je ne suis pas inactif. » Mais quelquefois, il faudra du temps, l'éternité peut-être, il faudra que Dieu enlève le brouillard de nos yeux. Mais, je vous fais encore une confidence, c'est au travers de mes grandes difficultés, et ce n'est pas bien glorieux, quand j'ai fait mes études, j'ai échoué beaucoup d'examens. J'en ai réussi aussi quand même quelques-uns, hein, voilà. Mais je me suis rendu compte, c'est que c'est au travers de mes échecs, de mes difficultés, que Dieu était le plus près de moi, qu'il était puissamment à l'œuvre. Allez, maintenant la leçon d'Habacuc pour terminer. Dieu, pourquoi ne fais-tu rien ? Dieu lui répond, détrompe-toi. Et ce qui est drôle, c'est que quand Habacuc apprend ce que Dieu va faire, Dieu, mais pourquoi fais-tu cela ? Ben oui. Tu vas chercher un peuple qui encore... Nous sommes mauvais, c'est vrai, les Israéliens, nous sommes mauvais, mais tu vas chercher un peuple encore plus mauvais. Alors pourquoi? Pourquoi gardes-tu silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste? Le problème d'Habacuc réside dans ce qu'il sait de Dieu plutôt que dans ce qu'il ne sait pas. Il y a un conflit entre ce qu'Habacuc a vu et ce qu'il croyait. Et il y a bien souvent, chez nous, chez les chrétiens, un conflit entre ce que nous croyons de Dieu et ce que nous voyons dans le monde. Dans le temps de malheur, l'Église souffre. Mais c'est le livre de l'Apocalypse qui nous révèle cela grandement. Mais même si nous souffrons, le plan de Dieu ne change pas, ne s'arrête pas. J'ai parlé tout à l'heure un petit peu des temps de la fin. C'est vrai qu'il nous est dit bibliquement que les temps de la fin viendront dans la souffrance. Mais nous avons un formidable réconfort devant la souffrance et l'injustice d'être chrétien. Mais n'exagérons pas. Il y en a beaucoup qui présentent, qui disent « Lorsque vous serez chrétien, vous n'aurez plus de problème. » C'est faux, c'est faux. Croyants et incroyants, nous sommes tous confrontés aux problèmes du mal, de la souffrance, de l'injustice dans le monde. L'incroyant doit faire face, le croyant, lui, doit faire face, mais il y a quelque chose de supplémentaire qui s'ajoute. Dieu, pourquoi fais-tu cela? Dieu semble tolérer le mal, l'injustice, la souffrance, la misère. Nous aimerions se présenter entre chrétiens, et c'est vrai que se présenter avec notre foi devant les autres. Alors, c'est vrai que, à mon avis, les choses sont complètement différentes lorsqu'on croit en Dieu et lorsqu'on ne croit pas, c'est sûr. Mais il ne faut pas croire que nous ne serons pas mis à l'épreuve. Un grand homme de foi, qui venait de perdre son épouse bien-aimée, et qui a dit ceci: parlez-moi de la vérité de la religion et j'écouterai gentiment. Parlez-moi des devoirs de la religion et j'écouterai docilement, mais ne me parlez pas des consolations de la religion, car à des moments, j'aurai idée que vous n'avez rien compris. Il y a des grandes consolations dans l'Évangile, mais il y a à des moments que nous ne trouvons pas facilement la consolation. C'est la grande leçon d'Habacuc. Habacuc s'accroche à Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, malgré l'épreuve. N'es-tu pas le Dieu de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint, tu es mon rocher, mon protecteur, mon refuge. Habacuc s'approche à tout ce qu'il sait, mais ce n'est pas suffisant d'être des gens très intelligents qui récitent les versets bibliques par cœur. Je caricature. La foi, ce n'est pas avoir toutes les réponses, mais c'est s'accrocher à ce que Dieu dit, même si nous ne comprenons pas. Alors maintenant, je vais conclure en donnant deux ou trois petits trucs, pauvrement, mais je pense que c'est biblique. Dieu dit au peuple, à Habacuc, fixez les yeux vers les autres peuples. Autrement dit, Habacuc, le monde ne s'arrête pas à toi, à la pointe de tes orteils, élargis ton horizon. On croit souvent que le monde s'arrête à nous et qu'il n'y a que nous qui avons de grandes difficultés. Je pense au chant « Tournez les yeux vers le Seigneur ». En Occident, et peut-être même dans certaines églises, on aurait tendance à croire que l'Église du XXe siècle, elle est blanche et que c'est la nôtre, bien sûr. Mais non, Ben non, elle est aussi africaine, asiatique, mondiale. Mais Dieu est à l'œuvre dans tous les pays. Là, j'ai mis la Chine entre parenthèses. Regardez au loin, car Dieu agit. Avez-vous remarqué la différence de pronom lorsque Habacuc s'adresse à Dieu et lorsque Dieu lui répond? Quand Habacuc s'adresse à Dieu, « Jusqu'à quand, ô Éternel, vais-je t'appeler ?» Et Dieu répond, « Fixez les yeux, il élargit. » Habacuc répond comme s'il était seul, isolé, solitaire. Cela fait penser à Élie avec les 400 prophètes de Baal. Élie a un moment avec peur et il dit à Dieu, « Mais je suis resté seul, ils veulent monter ma vie. » Et Dieu lui répond, au travers d'un souffle léger, un murmure. Mais non, il y en a 7000, un reste de 7000. Regarde autour de toi. Habacuc, tu n'es pas seul. Oui, je termine, si des temps de malheur s'abattent sur nous, regardons aussi par la fenêtre autour de nous, dans l'église, regardons aussi les autres, nous ne sommes pas seuls. Regardons au loin, regardons à Jésus. Jésus a regardé notre misère, il comprend notre douleur, notre malheur. Il s'est senti seul à un moment, c'est son côté humain, incompris de tout le monde. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et ensuite, il dit, c'est un exemple pour nous, non pas comme je le veux, mais comme tu veux. Jésus s'est accroché à ce qu'il savait. Il était prêt à attendre. Il s'en est remis à celui qui juge justement. Que nous puissions nous aussi dire, mon Dieu, pourquoi cette épreuve ? Et ensuite, non pas comme je le veux moi, mais comme tu veux, car je sais que tu veux mon bien. Complètement délaissé, Jésus a été mis au tombeau, délaissé mais pas abandonné. Je vais faire une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait, bien, c'est aussi la résurrection. Quelque chose d'incroyable pour nous, nous pécheurs, repentant, sachant que nous serons ressuscités. Et là, un jour, j'ai pensé pendant longtemps que le Seigneur allait ressusciter mon corps, mais il me semblait que ma main était pas mal et qu'il garderait ma main, voilà. Puis j'ai une épaule qui va pas mal, la gauche, pas la droite, enfin, il garderait, etc., etc. Malheureux que je suis. Oui, je serai ressuscité corporellement. Mais j'aurai un corps complètement nouveau. La main que je croyais à peu près bonne, elle ne sert à rien du tout. Ce sera un corps complètement nouveau, le mien. Voilà ce qui nous est promis. Je vais faire une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Voilà. Dans les profondeurs de la souffrance, Jésus nous comprend, il nous aime, il nous promet la résurrection. Malgré nos épreuves et nos incompréhensions, arrêtons de douter de tous ces événements qui se passent sur cette terre. Amen.